C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, plus de café là.
Attends, on en fait après les missions.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Les jours.
Ce gars, c'est tout
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va. Allez, c'est parti.
Bonjour et bienvenue dans ce Vivement ce soir qu'on se couche du mardi 13 mars 2012. Bonjour à Chloé et Jean à la technique. Dimanche, un envoyé spécial est parti en mission à la grande chaîne humaine qui s'est tenue entre Lyon et Avignon. Nous aurons donc un vrai retour sur cet événement grâce à Manuel Garcia, notre coordinateur d'antenne qui a ramené du son plein ses bagages, ainsi qu'une interview de Philippe Tellier du réseau Sortir du nucléaire. Ça sera dans la chemise à rayures. Aujourd'hui, nous n'aurons pas la parenthèse littéraire de Sylvie Boulard, mais Elsa Gourmand reviendra parmi nous, comme à son habitude depuis quelques semaines. Elle nous parlera de la bande dessinée humoristique Quai d'Orsay de Christian Blain et de la revue La Salamandre consacrée à la nature. Et enfin, comme chaque mois, nous vous présenterons la nouvelle exposition de l'Office de tourisme de Sainte-Afrique. Sylvie Gravelard nous parlera de ses céramiques en raku et Patricia Durand de ses dessins de nus. Mais avant toute chose, une petite pause musicale avec Debbie Bond.
Trouble I could get into.
Yeah, yeah.
Trouble I could get into.
You're the
You have a king of trouble de Debbie Bond, un CD de la semaine. Chloé vient de me suggérer qu'en fait c'était une musique pour cheveux débridés. Donc Phil, si tu nous écoutes, tu es en repos. On est sûr que tu as enlevé ton chouchou, que tu as les cheveux sauvages et fougueux et que tu danses dans ton salon. C'est super. Allez, place à la chemise à rayures du jour.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Ce dimanche 11 mars, c'était la commémoration des 1 an de la catastrophe de Fukushima au Japon. Dans ce cadre, de nombreuses manifestations et des chaînes humaines se sont organisées de par le monde. De retour de la chaîne humaine qui a eu donc lieu ce dimanche entre Lyon et Avignon, notre envoyé spécial Manuel Garcia, le coordinateur d'antenne de Radio Saint-Afrique, partage avec nous un peu de cette atmosphère chaleureuse et militante qui semblait régner sur les lieux.
Il est 14h30. Là, j'arrive sous le petit village de Mornas, un petit château sous une crête calcaire, pas loin du village de Bolène, qui est ensuite suivi de Tricastin. Et là, on commence à voir les premières vapeurs qui sortent des immenses cheminées de ces fameuses centrales nucléaires, voilà, pour qui les gens qui sont là et constituent cette chaîne humaine pour lutter contre ce nucléaire qui nous pourrit peut-être la vie. Et on essaye de trouver des solutions pour vivre autrement, pour avoir une énergie différente.
Tous contre le nucléaire !
En direct de la chaîne humaine contre le nucléaire, cette chaîne humaine qui s'est constituée part de Lyon jusqu'à Orange, à peu près 240 km. Je vais essayer de trouver des gens qui ne soient pas dans l'Aveyron.
Qui allait de Belle-Île-la-Croix montrer des vitres. La montra des nitralons l'air.
Vous venez d'où ?
De Saint-Maurice, près de Nyons, ici.
Bretagne.
Oh, Bretagne ?
Vannes.
Alors, est-ce que vous savez combien de Bretons sont parmi vous, là ?
Oh, il y a plusieurs bus, hein, je crois, mais je sais pas exactement. Non.
Bon, on va continuer, alors. Merci à vous.
Au revoir.
Vous venez d'où ? De Mialet, à côté d'Alès.
Hein, soi-disant qu'on n'est jamais visible, mais on est très très nombreux. Et encore, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir de toute la France. Il y a en même temps une chaîne d'ailleurs qui est en train de se faire à Bordeaux, aujourd'hui même, pour tous ceux qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Voilà, mais on est encore plus nombreux que ça.
On commémore aussi en solidarité avec les Japonais, qui eux-mêmes ont fait une chaîne de Tokyo, qui va jusqu'à je sais pas où. Mais voilà, on fait la même représentation pour commémorer et être solidaire avec eux, quoi.
Voilà, un an après, jour pour jour.
Les responsables qui nous ont mis devant cette impasse, c'est à eux de nous en sortir quand même. Alors nous disons à ceux qui peuvent le faire et qui ont le pouvoir, faites-le. Sortons du nucléaire le plus tôt possible, le plus vite possible.
Contre le nucléaire pour une nouvelle source d'énergie, oui.
Philippe Tellier, tourneur sur bois du Larzac et militant du réseau Sortie du Nucléaire, était présent et il nous fait un retour de cette journée de mobilisation.
Après une journée de chaîne, quel est le bilan ?
Bon, ben écoute, le bilan, il est pour une première, il est plutôt intéressant. Hein. Donc là, on a maintenant de sources sûres que nous étions 60 000. Certes, il y avait des maillons manquants, hein, puisque ça aurait été bien si on avait été 200 000. Mais pour une première, allez, on va dire que c'est plutôt satisfaisant. Sachant que, bon, il y a eu ces 5 chaînes dans 5 lieux en France. Moi, après, personnellement, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on se focalise sur la vallée du Rhône. Et là, ça aurait été intéressant, parce qu'on aurait pu être 100 000. Enfin, c'est un petit peu idiot, mais mine de rien, au niveau médiatisation, les chiffres ont leur pesant d'or, quoi. J'avais jamais participé à une chaîne humaine, puisque c'est quelque chose qui est assez novateur en France. Donc je me rends compte que bon, il faudra les aider hein, la prochaine, parce que on manque de communication, c'est assez statique. Bon, tant mieux qu'il y ait eu ce nombre, ça c'est plutôt bien, ouais. Enfin voilà mon sentiment.
Et donc on peut espérer que l'année prochaine, dans un an, on remette ça?
Ben, j'espère bien qu'on aura amorcé, enfin nous, la base, la transition énergétique. Bon, maintenant, je pense qu'on est quand même debout pour ce type d'action. Donc, on sait qu'on va se mettre en liaison avec les organisateurs. Mais j'espère fortement que, présidentielle ou législative oblige, que nous autres, on va faire avancer le schmilblick, hein, c'est certain. Ouais.
C'est vrai qu'on attend que les élections passent et on verra après s'il y a d'autres choses possibles.
Bon, c'est pas tout à fait mon propos parce que j'attends pas grand-chose des deux partis principaux puisque là on connaît leur position. Non, j'attends de la population se dessine des régies municipales. C'est bon, même si ça freine des cas de fer au niveau de l'EDF, mais à mon avis c'est l'amorce va se faire à ce niveau-là puisque la prise de conscience sur la rareté de la matière première va se faire de plus en plus présente. Le pétrole augmente, tout ce qu'on sait. Donc il va falloir se mettre en régie. Je sens ça venir, je pense à mon Didier, à également une communauté de communes dans le Morbihan. Voilà, c'est des citoyens avec des politiques qui mettent en place quelque chose. Alors ça, j'ai l'impression que ça va être une sortie. Parce que moi, non, j'attends personnellement rien de... malheureusement, que ce soit PS ou PC, encore moins. Enfin, Front de Gauche, le référendum, j'y crois pas une seconde. Parce qu'il nous donnerait pas... Je pense que si le Front de Gauche a écouté donc, ou à lire dans la presse les propos du Front de Gauche, si demain on a un référendum, le nucléaire, on en prend pour plusieurs générations. Parce que ce qu'il faut, c'est... Il faut pas oublier qu'il y a eu 50 années de dictature. De diktat sur le nucléaire et son lobby, donc ça s'enlève pas comme ça.
Alors, au Japon, sur 54 centrales, ils en ont fermé 52. Comment ils font ?
Ah, oui, même, tu vois, pour être précis, c'est que fin avril, les deux restants seront à l'arrêt pour 15 mois. Alors, comment ils ont fait ? Donc, bon, on va commencer par l'obligation. Ils ont importé une quarantaine de pourcents de pétrole et de gaz. Mais sinon, bah, une politique drastique. Hein. Alors, bon, est-ce qu'ils sont plus disciplinés que nous autres ? C'est sans aucun doute. Mais en attendant, ils étaient donc confrontés à qu'est-ce qu'on fait ? Sachant que c'est quand même la quatrième puissance au monde. Donc, ils ont fait ce qui... La vie ne s'est pas arrêtée. Hein. On achète toujours des microprocesseurs de chez eux. Enfin, toute la technologie. Ils ont changé réellement leur quotidien. Leur exemple, les escalators. Il y en a un qui marche sur trois. Les enseignes lumineuses, Tokyo et toutes les grandes villes. Réduction à ce niveau-là. Ils ont réussi à réduire avec toute une flopée de rigueurs drastiques. Ils ont réduit de 15% leur énergie. Autre exemple, ils commencent un petit peu avant le boulot ou à l'école. Enfin, vraiment, et puis surtout, il y a une solidarité qui est en train de se créer. Et puis, ils n'ont pas le choix. Alors, ils ont à la tête de leur gouvernement quelqu'un qui est pro-nucléaire, mais ça freine des cas de fer parce que la population, même aujourd'hui, elle est dans la rue. Il y a une chaîne humaine au Japon.
Donc, il faut espérer qu'en France, il ne faille pas un tremblement de terre, un tsunami et une explosion pour en arriver là, quoi.
Ben voilà, exactement. Ouais. Si. Parce que c'est bien triste. Hein. Pourquoi nous étions aujourd'hui 60 000 et dans des tas de villes du monde, des tas de pays du monde, donc où il y a des chaînes humaines, c'est oui, parce que Fukushima est passé par là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait pu penser avoir une pensée aussi à tous ces gens, bon, qui sont morts ou qui vont tôt ou tard attraper des cancers ou autre saloperie. Donc oui, en effet, ça c'est certain. Doit-on attendre un accident dans la vallée du Rhône? Ben non, bien sûr. Et pourtant, ce qui est terrible, c'est que, enfin, je le souhaite nullement, mais c'est que, on sait maintenant que le risque zéro n'existe pas, donc il y aura certainement je souhaite pas, encore une fois, mais c'est, en effet, c'est à se demander si on n'attend pas l'accident pour qu'il y ait un changement catégorique en termes politiques, quoi.
Ne plus attendre.
Ah bah non, ça plus attendre. Et donc c'est pour ça que nous autres, nous c'est les citoyens, nous sommes des maillons maintenant, et puis hop, maintenant il faut que cette chaîne grossisse et qu'on soit vraiment acteurs, donc au niveau local, comme on disait tout à l'heure, hein, sur les régies, moi j'y crois beaucoup, et puis qu'on interpelle nos politiques sur l'éclairage, enfin les exemples ne manquent pas, quoi, hein. Mais il faut absolument qu'on amorce la transition énergétique. Et qu'on en sorte de cet atome.
Sismique, fission, fissure, fusion, césium, oxyde de plutonium. La vague immense de l'eau de mer pour refroidir le cœur. Tectonique des plaques, cynique, nature opaque. Corium, fission, fissure, fusion, césium, oxyde de plutonium. Tectonique des plaques, cynique, nature sismique. Fission, fissure, fusion, césium, oxyde de plutonium. La vague immense de l'eau de mer pour refroidir le cœur. Tectonique des plaques, cynique, nature opaque. Corium, fission, fissure, fusion, césium, oxyde de plutonium. Tectonique des plaques, cynique, nature sismique. Destin des plus tragiques pour l'homme et sa technique.
La chanson Fukushima de Thibaut Hatt, donc dans cette chemise à rayures, vous venez d'entendre Philippe Tellier au micro de Manuel Garcia. Elsa vient d'arriver dans le studio, bonjour Elsa.
Bonjour Elsa.
Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Alors j'ai lu une bande dessinée. Quai d'Orsay, chronique diplomatique. Donc, c'est le deuxième tome. Hein. C'est une bande dessinée de Christophe Blain et Abel Lanzac. Donc, le deuxième tome de ces chroniques diplomatiques est paru il n'y a pas longtemps. Dans le premier tome, le jeune Arthur Vlaminck était embauché en tant que chargé du langage par le ministre des Affaires étrangères, Alexandre Taillard de Worms. Pour parler simplement, hein, il devait écrire les discours du ministre, ce jeune Arthur Vlaminck. Donc on découvrait avec lui le directeur de cabinet, un homme calme et pondéré, et les autres conseillers, les ambitions et coups fourrés des uns et des autres, et le stress induit par un travail souvent fait dans l'urgence. Ça fait un peu penser à la radio des fois, ça, le travail fait dans l'urgence. Et puis surtout, on côtoyait avec notre jeune conseiller, le ministre des Affaires étrangères. Alors c'est un grand type, à la moumoute, parfaitement coiffé, aux grandes envolées lyriques.
Un peu comme Phil, quoi.
Pas vraiment, hein. Et aux références littéraires inépuisables, un personnage qui ressemble à s'y méprendre à Dominique de Villepin. Dans ce deuxième tome, Arthur Vlaminck, toujours lui, le conseiller en charge du langage continue de préparer les discours du ministre Alexandre Taillard de Worms. Et il se trouve qu'il y a la crise du Louisdem qui est au cœur des préoccupations de l'équipe du Quai d'Orsay. Les Américains menacent de déclencher une guerre à laquelle s'opposerait le gouvernement français. Et le ministre s'apprête à prendre la parole à ce sujet au siège de l'ONU à New York. Ça commence comme ça d'ailleurs, on voit le ministre débarquer fringant de l'avion. À New York, il descend, je ne sais pas comment décrire son allure, vive, alerte. Il descend à toute vitesse l'escalier de l'avion, suivi par des conseillers quelque peu fatigués et un peu malades, on dirait.
Et de noir vêtu, on dirait presque
de noir vêtu, ouais. Alors, à l'origine, il faut raconter l'origine de cette bande dessinée. À l'origine, il y a la rencontre entre Christophe Blain et Abel Lanzac. C'est un pseudonyme, Abel Lanzac. Il ne tient pas à se faire connaître. Mmh. Abel Lanzac, c'était un jeune haut fonctionnaire qui a vraiment travaillé au Quai d'Orsay. Donc, il a raconté son histoire à Blain en lui mimant et en imitant ses collègues de travail. Et le personnage donc, de Alexandre Taillard de Worms est effectivement inspiré de Dominique de Villepin qui, paraît-il, n'hésite pas à dédicacer lui-même la bande dessinée quand on lui demande.
D'accord.
Et ouais.
Intéressant.
Alors, il faut dire que selon le dessinateur, tout ce qui est raconté est vrai, même si dans la réalité, il y a un peu plus de conseillers. Hein. Blain s'est limité à quelques personnages. On a un directeur de cabinet, un conseiller Europe, un conseiller Moyen-Orient, une conseillère Afrique, un conseiller Amérique et Extrême-Orient et notre héros, donc le conseiller chargé du langage. Donc Blain et Lanzac nous font pénétrer dans les coulisses du Quai d'Orsay avec délice et fluidité. Et le dessin donne vraiment l'impression que les personnages sont en mouvement. Mmh. Et Blain parvient à rendre les mimiques des uns et des autres avec véracité. Enfin, on s'y croirait. Hein. Et les auteurs nous gratifient aussi de dialogues savoureux et de situations drôlatiques ou absurdes. Voilà, c'est tout simplement excellent. Je le conseille vraiment. C'est publié chez Dargaud. Ça coûte 16,95 €, mais on peut l'avoir aussi à la médiathèque de Saint-Afrique.
Il faut trouver une petite musique voilà, à Chloé pour ça.
Petite musique. Et puis, aux dernières nouvelles, cette BD devrait être adaptée au cinéma.
Ah ouais?
Ouais, par Bertrand Tavernier.
Ah,
il paraît que le travail est en cours.
Super, et bien bonne nouvelle.
Voilà.
Et ensuite, le week-end, toi, tu lis des trucs sur les oiseaux, la nature. T'as vraiment le temps de faire des tas de choses intéressantes, Elsa.
Ouais, c'est pour ça que c'est bien le week-end. On fait plein de trucs intéressants qu'on ne peut pas faire dans la semaine. Bref. Salamandre, voilà, je vais vous parler de Salamandre, qui est une revue des curieux de nature. Ça paraît tous les deux mois et la revue propose plusieurs articles consacrés aux animaux, à la flore, aux paysages et des articles agrémentés de très belles photos et de croquis. Le dernier numéro, donc de février-mars, propose un dossier sur le milan noir qui est en train de revenir chez nous avec le printemps. Donc on les suit dans leur migration depuis l'Afrique où ils ont résidé durant l'hiver. Les premiers arrivent en éclaireur en février, mais le gros de la troupe arrive en mars. L'heure de quitter le sud sonne donc début février. De plus en plus d'oiseaux survolent la savane en direction du Sahara. Les milans sont donc de la partie. Avec une rare économie de mouvement, ces planeurs montent en spirale dans une ascendance d'air chaud, puis glissent sur des kilomètres jusqu'au prochain ascenseur thermique. Le désert est franchi aussi vite que possible, au rythme de 200 à 500 km par jour. Beaucoup de migrateurs attendent que des vents favorables soufflent du sud au nord avant de se lancer. La traversée des milans noirs se concentre sur deux ou trois fenêtres météo favorables. La plupart d'entre eux arrivent ainsi en quelques vagues successives sur les rives de la Méditerranée. Et faute d'ascendance thermique, la mer est un obstacle extrêmement, autrement plus redoutable pour des oiseaux, incapables de franchir de grandes distances en vol battu. Mmh. Les milans doivent donc traverser au plus court par Gibraltar, ou atteindre l'Italie via la Sicile. Dans les deux cas, ils n'y parviennent que si les vents sont de la partie. Ainsi, de la troisième semaine de février jusqu'à la mi-avril, Gibraltar voit passer plus de trois quarts des milans noirs d'Europe de l'Ouest. Certaines journées mémorables, ils sont des milliers à franchir en même temps le détroit. Le record comptabilisé en un seul jour est astronomique, 13 000 individus.
C'est énorme. Ouais. Tout à fait.
Encore quelques jours et les rapaces planeront à nouveau au-dessus des plaines verdoyantes de l'Europe. Il y en a quelques-uns déjà vers chez moi. Voilà, donc Salamandre fait le point sur la vie intime de ce rapace, son régime alimentaire, sa vie amoureuse, la nidification, ses ennemis, les corneilles, il n'aime pas du tout. Et puis, ces rapaces, ils repartent vers la mi-juillet pour les adultes, hein, et les jeunes suivent 4 semaines plus tard.
Ah ouais, il reste peu de temps.
Et ouais, c'est assez court, c'est finalement. Court, hein. En France, l'oiseau a progressé ces dernières décennies dans l'ouest de la France. Hein. Les plus gros effectifs se situent en Rhône-Alpes, en Auvergne, en Lorraine, en Franche-Comté, en Aquitaine et en Alsace. Alors j'ai une petite devinette pour toi, Elsa. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce rapace Milan Noir ou Schwarzmilan ou encore Black Kite alors qu'il a un plumage brun, beige et roux?
Attends, je réfléchis.
Hein? Question.
Aucune idée.
Alors c'est parce que, je cite, on ne connaît trop souvent de lui qu'une silhouette qui s'inscrit comme une ombre chinoise sur la toile infinie du ciel.
C'est beau, hein. Ouais, c'est super.
Alors Salamandre, la Salamandre propose à chaque fois un petit guide en relation avec le dossier principal. Et pour l'occasion, là, on a droit à un petit guide de rapaces diurnes.
Mmh. Guide ou DVD, c'est ça ? Enfin,
il y a aussi des DVD. Il y a des supports DVD aussi, mais... le plus simple, c'est ça, quoi. La revue accompagnée à chaque fois d'un petit guide. Alors, c'est une revue qu'on ne trouve pas en kiosque, donc il faut s'abonner en allant sur le site salamandre.net ou en écrivant, alors je vais donner une adresse, hein, à La Salamandre, BP 275, 25 304, Pontarlier, Cedex. Je répète.
Oui, tu peux.
Hein, à Salamandre, BP 275, 25 304, Pontarlier, Cedex. Ça coûte 34€ pour 6 numéros. Et il existe aussi une version pour les enfants, la petite Salamandre.
Et sachant qu'on le redit, mais le graphisme, il est fabuleux. Les photos, il y a de l'aquarelle.
Il y a des très belles photos. Il y a des aquarelles, il y a des croquis. Il y a
des esquisses au crayon à papier. Enfin, il est vraiment, c'est très beau.
Et leur site est très bien fait aussi. Et j'y étais tout à l'heure, on peut écouter aussi des bruits d'animaux. Il y a des sons. Si on a envie, voilà.
Bon, ben Alain Hardy de la LPO, il nous en dira plus, il doit connaître ça.
Ah, bah oui.
Il doit être fan. Bon, ben maestro, musique.
Leaders of Tomorrow de Rod Anton et de Ligerienne, un CD de la semaine que vous pouvez retrouver sur le site internet de Radio Saint-Taf. L'exposition du mois, c'est tout de suite.
Office de tourisme de Saint-Afrique, l'expo du mois. Ce mois-ci, à l'Office de tourisme de Saint-Afrique, vous pouvez découvrir les céramiques Raku de Sylvie Gravelard et les dessins de nus de Patricia Durand. Sylvie Gravelard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours artistique ?
Alors, mon parcours artistique, j'ai commencé par faire du graphisme, donc je m'intéressais plutôt à l'image. Je travaillais un peu dans la pub et un peu par hasard, pour faire court, j'ai rencontré une technique qui s'appelle le raku et que je pratique maintenant depuis 95 à peu près.
Ça consiste en quoi cette technique ?
Alors c'est une technique où on travaille la céramique, c'est une technique d'origine japonaise et le principe c'est de provoquer un choc thermique sur les pièces pour faire craquer un émail et ensuite enfumer les pièces et travailler avec le carbone. Voilà, donc c'est beaucoup un travail de noir et blanc.
Ce qui vous singularise peut-être un peu, c'est que vous faites du raku nu.
Oui, voilà, après le raku, je suis passée au raku nu. C'est dans la volonté, en fait, de travailler plus sur la lumière et que la matière céramique soit pas altérée par la brillance de l'émail. Voilà, donc mon idée, c'est de faire sauter l'émail, mais c'est pas mon idée, hein, c'est une technique qui existe déjà avant que je la pratique, et donc c'est de retrouver la peau de la terre telle que je l'ai travaillée accrue. Voilà. Donc je vais sauter l'émail pour avoir une matité de la matière et aussi un toucher. Pour moi, c'est important le toucher de la pièce.
Là, ce que vous exposez, c'est, je trouve ça assez étonnant, on dirait des coquillages ou des galets. Comment ça vous est venu l'idée de ces formes ?
Alors les formes, en fait, c'est pas vraiment une idée, ça part de la matière, puisque au départ, c'est le plaisir de travailler la matière, donc de créer des formes, de faire tourner les formes et de travailler les lignes, les volumes, les modeler. Et donc, j'ai pas d'idée au départ. Donc c'est plutôt au cours du travail que la forme se mûrit finalement. Et donc à un moment donné, je décide de l'arrêter, quoi. Et il se trouve que ça, c'est vrai que ce sont des formes qui reviennent toujours un peu assez rondes, mais avec quand même des arêtes, des lignes. Voilà, donc je pourrais pas vous dire quelles sont mes idées.
Des sources d'inspiration peut-être ?
Ça, les sources d'inspiration, oui. Il y en a beaucoup. Il y a un lien d'ailleurs avec le travail de Patricia qui expose avec moi. Enfin, c'est elle qui m'invite d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Et donc le lien c'est avec le travail du corps, puisque donc, je participe à des ateliers avec Muriel Miguerou depuis plusieurs années. Muriel Miguerou qui propose des ateliers autour du corps et autour de la danse. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Patricia qui m'a montré ses dessins. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a trouvé un lien entre nos deux travaux, quoi, nos deux créations. Donc, dans mes pièces, c'est vrai qu'il y a un rapport avec le corps, avec les organes, aussi avec le mouvement, les mouvements à l'intérieur du corps, avec le rapport à l'eau aussi, les liquides du corps et les liquides des organes, les mouvements à l'intérieur du corps. Voilà, c'est une de mes sources d'inspiration, c'est ça.
Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter ?
Je remercie Patricia de m'avoir invitée. Voilà.
Alors Patricia Durand, justement, on passe à vous. Donc je vais vous poser la première question, la même qu'à votre collègue, votre parcours artistique.
Alors en fait, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Sète. Et ensuite, j'ai travaillé dans le dessin animé dans un studio sur Montpellier. Et me voilà à Saint-Afrique, et où j'ai découvert l'atelier Sanguine, qui m'a bien aidé à revenir sur une production artistique. Voilà.
Alors pourquoi des nus ?
Alors donc, c'est le travail que l'on fait à l'atelier Sanguine. Voilà, et donc j'essaye toutes les techniques, tous les supports. Le travail de danse que je fais aussi avec Muriel Miguerou. m'aide aussi beaucoup parce qu'il y a un vocabulaire un peu similaire entre le graphisme et, et la danse. On parle beaucoup de lignes de force, de tension, on retrouve tout ça dans le trait, dans la couleur aussi.
Et est-ce que vous travaillez à partir de modèles ?
Oui, donc on a deux modèles à l'atelier Sanguine, donc féminin. Voilà.
Quand vous avez le modèle devant vous, vous l'abordez comment ? Je veux dire, c'est un regard objectif ?
Voilà, à partir du modèle, ce qui est en moi, j'essaye de traduire ce que m'apporte le modèle et de traduire, bien sûr, ce qui est en moi.
Dans le cadre de ce travail, vous avez des sources d'inspiration particulières ?
Tout ce que j'ai pu emmagasiner comme connaissances en histoire de l'art ou autre, ou que je continue à me documenter, ça m'aide aussi. La connaissance des autres aide c'est une recherche permanente. Voilà.
Et sinon, il y a des peintres qui vous titillent, qui vous...
Des peintres, oui, Matisse, tous les grands peintres. On a ça toujours en tête, quoi. Enfin, c'est pas forcément conscient, mais...
En discutant avec Patricia à la sortie d'un atelier de danse, elle m'a dit qu'elle faisait des dessins à partir de l'atelier danse. Et donc, un jour, je suis passée chez elle, elle m'a montré ses dessins. Donc, moi, ça m'a bien intéressée parce que souvent aussi, à l'atelier danse, j'ai aussi pas mal des visions de lignes et tout ça. Donc,
Ce qui s'est passé pour moi après l'atelier de danse de Muriel, j'avais envie d'explorer, d'exprimer dans le graphisme tout ce qu'on travaille avec dans la danse, quoi.
Et c'est vrai que ce qui caractérise le travail de Patricia aussi, c'est qu'elle elle arrête un instant bien précis. Elle ne retouche pas du tout son dessin, voilà. Alors que moi, je suis plutôt à travailler dans la longueur, parce que au départ, c'est une forme. Je travaille une forme assez, disons une ébauche, et petit à petit, je fais avancer la forme, les lignes et la matière et la peau de la terre dans le temps, quoi.
D'accord.
Et moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour arriver à maturité. Voilà.
Moi, je travaille sur l'instant. Je saisis la pose au moment. Et là, aujourd'hui, pour l'exposition, c'est présenté tel que j'ai fait au moment la pose. Il n'y a pas de retouche.
Les céramiques raccoues de Sylvie Gravelard et les dessins de nus de Patricia Durand sont à voir à l'Office de tourisme jusqu'au 24 mars. Office de tourisme de Sainte-Afrique. L'expo du mois.
est déjà l'heure de se quitter. Dans cette émission, vous avez pu entendre dans la chemise à rayures notre envoyé spécial Manuel Garcia qui a ramené de la chaîne humaine des sons plein ses bagages, ainsi qu'une interview de Philippe Tellier du réseau Sortir du nucléaire. Elsa Gourmand nous a fait voyager dans l'univers politique et humoristique de la bande dessinée Quai d'Orsay et celui du Milan Noir avec la revue La Salamandre. Et vous avez pu découvrir l'exposition du mois à l'Office de tourisme de Sainte-Afrique où Sylvie Gravelard expose ses céramiques en raku et Patricia Durand ses dessins de nu. Côté musique, vous avez pu entendre You Have a Kind of Trouble de Debbie Bond, une dédicace pour Philou, Fukushima de Thibaut Hatt, Leaders of Tomorrow de Rod Anton et The Ligerian. Et là tout de suite, on entend en arrière-fond D'accord d'Arabian Night. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les CD de la semaine sur le site internet de Radio Saint-Af. Un grand merci à Chloé et à Jean à la technique. Nous, on se retrouve demain à 10h10 après RFI pour une émission spéciale sur l'habitat léger, éphémère et mobile et les législations relatives à ce type d'installation. Bonne journée, soirée à toutes et à tous sur Radio Saint-Afrique.